Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, Monsieur, bonjour. La situation sociale de Kisantu au menu de la rencontre hier entre la première ministre, l'évêque de cette ville du Congo central, c'était à Kinshasa, Monseigneur Crispin Kimbeni, a notamment plaidé pour la réhabilitation de la route nationale numéro 16 et celle de desserte agricole. Leur état actuel empêche le développement de cette contrée. Le président de l'Assemblée nationale est à Beni depuis hier. La visite d'Aimé Ebouji Sangara, à la fois politique et symbolique, intervient dans un contexte marqué par la multiplication des attaques des ADF et une instabilité sécuritaire persistante. Les invités de dialogue entre Congolais ont analysé hier l'opération de contrôle des documents de transport et des véhicules plus de 3 semaines après son lancement à Kinshasa. Vous suivez leur avis dans ce journal. Avant de développer ces titres, sachez que plusieurs Kinois ont du mal à sortir de chez eux ce matin. Une forte pluie s'abat en effet sur la capitale depuis 4 heures du matin. À notre passage, certains points névralgiques connus pour leur écoulement lent de l'eau étaient déjà inondés. Et quand du cas du colonel Monjiba en face de l'ambassade du Gabon, notamment dans la commune d'Ngaliema, d'importantes quantités d'eau se déversaient également sur des écuries, toujours à Ngaliema, une avenue qui est pratiquement en train de se couper au niveau de l'arrêt Baoba. Nous reviendrons vous faire le point sur la situation dans la ville plus tard. Au Kasaï oriental, plus de 500 miliciens Mobondo en provenance de la capitale Kinshasa étaient hier jeudi en transit à l'aéroport de Mbujimayi. Des aéronefs ont effectué des rotations pour acheminer ces miliciens à l'aéroport de Mbujimayi. Des sources proches du service national indiquent qu'ils sont en partance pour Kanyamakasese dans le Haut-Lomami suivre la formation pour l'apprentissage des métiers. Aussitôt arrivés, ils ont tous été vêtus en tenue avec mention service national. Tous les autres effets tranchants qu'ils détenaient ainsi que les vêtements ont été détruits aux places à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi. C'est donc un dossier également à suivre. Situation sociale à Kisantu. Sa population va sûrement retrouver le sourire dans les jours qui viennent. En tout cas, la première ministre Judith Suminwa a échangé hier jeudi à Kinshasa avec l'évêque de cette ville du Congo central, Monseigneur Crispin Kimbeni. Les deux personnalités se sont penchées sur la situation sociale de la population de Kisantu et l'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 16. Pour le prélat catholique, la RN16, artère vitale, est à l'agonie. La dégradation de cette route ne permet pas d'évacuer les produits agricoles vers les grands centres de consommation, ce qui décourage progressivement les paysans. Une situation qui, selon l'évêque de Kisantu, encourage la déforestation et compromet les perspectives de développement durable. Suivez Monseigneur Crispin Kimbeni dans ses propos sélectionnés par Alain Irung.
De Kisantu, je pensais qu'il fallait référer un peu la situation de la population et de la contrée où est situé le diocèse de Kisantu. Donc on a parlé de la situation sociale de l'ancien district de Lukaya. Il faut dire que l'ancien district de la Lukaya est confronté au sérieux problème de route. D'abord la RN16, qui est la route nationale, est pratiquement impraticable. Et cela a des conséquences par rapport à la population qui ne sait pas évacuer les produits agricoles. Et si bien qu'au fil des années, la population ne s'évertue plus à travailler les champs. Le produit le plus exploité et exporté, c'est la braise, ouais, puisque ça ne périt pas, ça se détruit pas facilement. On peut pas promouvoir le développement d'un peuple d'abord en déboisant, puisqu'il faut faire la braise, et surtout quand il n'y a pas de culture, les cultures vivrières. Donc le problème de route, la nationale, mais aussi des dessertes agricoles. Et là, c'est vraiment un très sérieux problème qu'il faudrait que, le gouvernement, dans la mesure du possible, arrive à résoudre.
Autre alerte de la société civile de Sakania cette fois, dans le Haut-Katanga. Les territoires de Sakania, Poeto et Kasenga ainsi que la commune de Mokambo sont dans le noir et cela dure depuis lundi. À la base, la société d'électricité zambienne, ZESCO, a interrompu lundi l'énergie électrique dans ces contrées de la province du Haut-Katanga pour non-paiement des factures par la SNEL, signalant que c'est la SNEL qui payait les factures d'électricité de ces entités frontalières avec la Zambie et c'est la Zambie qui fournissait le courant dans un message le 5 février dernier adressé à la SNEL. La société ZESCO a rappelé que le contrat signé a pris fin depuis décembre 2018 et n'a jamais été renouvelé. Face à cette situation, Jean Olondo, coordonnateur de la société civile de Sakania, craint la recrudescence de la criminalité. Ses propos sont choisis par Paula Munanga.
Maintenant, nous sommes dans le noir. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, nous, on connaissait beaucoup d'insécurité. Pendant la nuit, la plupart des maisons sont visitées par les délinquants, par les hommes inconnus qui sont venus, je ne sais pas d'où. Et maintenant que nous sommes plongés dans le noir, je crois bien que l'insécurité va galoper. Raison pour laquelle nous passons par la radio Okapi, afin que l'autorité compétente puisse être saisie de cette situation pour qu'il y ait une solution rapide dans les jours qui viennent. Et il y a deux semaines passées, la Zambie avait rédigé une lettre vers le gouvernement congolais pour le signifier que dans 7 jours, je vais interrompre la fourniture de l'énergie électrique. Comme prétexte, il y a le non-paiement des factures et le non-respect des engagements qu'ils avaient pris avec le gouvernement congolais. C'est alors qu'arrivé à l'échéance, c'est le 16 février à 18h que la Zambie a interrompu la fourniture de l'énergie électrique.
En réaction, Ralph Mbayo, directeur régional sud de la SNEL, rassure les populations de ces contrées que le courant sera rétabli incessamment. Autre nouvelle, le président de l'Assemblée nationale est arrivé hier jeudi à Beni dans le Nord Kivu. Aimé Boji Sangara est sur place pour une visite qui s'annonce à la fois politique et symbolique dans un contexte marqué par la multiplication des attaques des ADF et une instabilité sécuritaire persistante. Je vous signale que c'est pour la toute première fois qu'un président de la Chambre basse du Parlement visite la région de Beni, Butembo et Lubero. Martial Papimukeba nous en dit plus.
Depuis plusieurs semaines, les territoires de Beni et Lubero connaissent une recrudescence des attaques attribuées aux rebelles des ADF. Selon la société civile, depuis le début de l'année, une 60aine de civils ont été tués, plusieurs autres enlevés et des maisons ainsi que des structures sanitaires incendiées provoquant des déplacements massifs des populations. D'autres groupes armés sont également accusés d'exactions contre les civils. La population attend des mesures ou initiatives concrètes pour soulager les victimes. Par ailleurs, la ville de Beni accueille depuis un an les sièges provisoires des institutions provinciales du Nord Kivu après l'occupation de Goma par l'AFC M23 et héberge déjà de nombreux déplacés ainsi que plusieurs services de l'État. La visite d'Aimé Boji Sangara s'inscrit dans ces contextes sécuritaires et politiques particuliers marqués par l'insécurité dans la zone. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Direction la Grande Orientale à présent. Où sa population dit niet à la guerre dans son espace vital. Elle aspire plutôt à la paix. Voilà pourquoi elle soutient les accords de Doha et de Washington. Ceci ressort de la conférence organisée mercredi à l'Institut supérieur du commerce par Grace Neema, questeur adjointe de l'Assemblée nationale et le professeur Trésor Grison Kakumbi de l'Université de Kisangani. Cette conférence a eu pour thème paix, politique et développement de la Grande Orientale face aux accords de Doha et de Washington. Le point avec vous, Jacques Mkonkole.
La signature de l'accord de paix de Washington et les discussions de Doha ne sont nullement une faiblesse. C'est plutôt une option stratégique qui vise à transformer la paix en levier de développement. Ce développement des entités est voulu par la population de cet espace, comme on le voit à Bunia, à Kisangani, à Isiro et à Buta, avec la réhabilitation des infrastructures, souligne Grace Neema. Parlant du dialogue national en perspective, le professeur Grison Kakumbi livre des résultats de son enquête à ce sujet. Avec qui dialoguer, pourquoi dialoguer et où dialoguer?
La population dit, puisque l'interlocuteur est le peuple, les dialoguer après la guerre, avec le peuple, à travers ses institutions, au niveau national, jusqu'au niveau provincial, même dans nos villages, et là va nous permettre à ce que le matière concerne le bien-être du peuple et les maintien de la promotion du développement du pays. Il faut que les promesses du chef de l'État de créer une jeunesse de millionnaires est matérialisée dans le sens où qui bloque pour que nous n'ayons pas de jeunes millionnaires? Qui détourne? Pourquoi il détourne et comment mettre fin au détournement? Il faut dialoguer. Et dialogue des Congolais doit se faire dans leur propre pays.
Jacques Nkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis cette actualité, le vice-premier ministre de l'Intérieur autour d'une table avec le haut commandement de la police nationale congolaise, composé du commissaire général et ses trois adjoints. C'était hier jeudi à Kinshasa, au menu de cette réunion d'évaluation et d'orientation, tous les points essentiels relatifs au fonctionnement, aux défis, ainsi qu'à sa réforme, a indiqué le porte-parole de la police. Ils ont été d'ailleurs examinés avec minutie afin de permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle selon toujours lui. À cet égard, Jacques Machabani a donné des instructions au commencement pour bien remplir les missions fondamentales de la police, notamment le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la lutte contre la criminalité, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. On écoute le compte-rendu du commissaire divisionnaire Julien Mavungu, porte-parole de la police nationale congolaise, dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Il est de bonne politique de gestion à l'aube d'un exercice donné que de faire une évaluation du fonctionnement des services. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est livré à cet exercice. Tous les problèmes de la police ont été évoqués. Un véritable diagnostic de tous les problèmes que rencontre la police dans son fonctionnement au quotidien. Et une thérapeutique y a été apportée. Et dans le jeu aussi bien du fonctionnement qu'au niveau de la réforme, parce que la réforme commence non pas par les structures, mais par le policier d'abord lui-même. Le vice-premier ministre tient à rassurer la population, aussi bien de la ville de Kinshasa que de partout ailleurs, à travers les territoires nationaux, que la police nationale est résolument engagée à assumer les missions constitutionnelles qui sont dévolues dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public, qui est la mission de police administrative, la police préventive de la police. Il en est de même pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
Province du Lualaba, deuxième jour hier jeudi des audiences en flagrance au tribunal des grandes instances de Kolwezi. Ce procès oppose le ministère public à 10 jeunes hommes. Ils sont poursuivis pour viol collectif, association de malfaiteurs et torture. À l'ouverture des débats, le ministère public a rappelé la gravité des faits reprochés aux prévenus, soulignant la préméditation alléguée et la diffusion des images considérées comme une circonstance aggravante. Pour rappel, en date du 28 janvier dernier, une jeune fille a été violée au quartier Golf Istem par plusieurs jeunes. La scène a malheureusement été filmée. Et quelques jours plus tard, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et elle a provoqué une onde de choc et l'indignation dans l'opinion publique. Les suspects ont été arrêtés dans les jours qui ont suivi la diffusion de la vidéo et placés sous mandat d'arrêt. Les professionnels des médias se dotent désormais de leur identité particulière en RDC. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, leur a doté ce jeudi d'une nouvelle carte professionnelle dévoilée au cours d'une cérémonie à Kinshasa. Le président de cette organisation syndicale explique que ce document vise à assainir la profession gagnée par de moutons noirs. Pour le directeur du cabinet du ministre de la communication et médias, cette carte n'est pas un privilège, mais plutôt une charge. Plus de détails avec Blaise Ndongalamende.
Ouvrant les balles, le président de la commission de la carte au sein de l'INPC explique que ce document veut mettre fin à l'amateurisme au sein de la profession journalistique. Charles Dimanja Wembi indique que cette carte d'identité professionnelle du journaliste comporte plusieurs éléments de sécurité certifiant sa valeur à travers le pays.
Dans cette carte, vous trouverez des dispositifs optiques, un filigrane intégré, un hologramme sécurisé, personnalisé.
Le président de l'INPC qualifie le lancement du processus de délivrance de cette carte d'un signal fort visant à réformer les métiers des journalistes en RDC. Baudouin Kamanda wa Kamanda.
La carte de presse n'est pas une contrainte. Elle est une garantie d'identité, de protection, de responsabilité. Elle distingue le professionnel de l'imposteur.
Pour sa part, le directeur des cabinets du ministre de la Communication et Médias précise que ces documents permettent au gouvernement d'identifier les journalistes pour non seulement les sécuriser, mais également les accompagner dans leur profession. À travers cette nouvelle carte, l'Union nationale de la presse du Congo joue sa mission d'autorégulation des médias conformément à l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, dite loi Mouyaya, sur la liberté de la presse à travers les pays.
Santé, le gouvernement affirme avoir amélioré la qualité des soins destinés aux enfants souffrant de cancer. Le directeur du Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, a fait cette déclaration hier à Kinshasa en marge de la journée mondiale de lutte contre le cancer pédiatrique. Docteur Bienvenu Leboisé indique que son établissement dispose non seulement des laboratoires modernes de diagnostic, mais également des médicaments appropriés permettant une prise en charge gratuite de ses enfants. Ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
L'État a mis à notre disposition de médicaments contre un certain nombre de cancers, surtout les cancers de mère et de l'enfant. Ces médicaments, nous les mettons à la disposition des centres qui travaillent avec nous, les CNLC, notamment les cliniques universitaires de Kinshasa. Des médicaments D8, dont le médicament qui demande la chaîne de froid, et des médicaments room température, donc de 15-25, sont à garder à la pharmacie à côté. Et nous avons également ici, aux cliniques universitaires, aménagé un espace pour les laboratoires, on a mis des automates, automates pour la biochimie, automates pour l'immunohémato, et ces automates sont approvisionnés par notre partenaire Roche pour que les examens de malades ayant le cancer puissent se passer de façon optimale. Ici, aux cliniques universitaires, nous avons également des locaux aménagés en anapat, parce qu'en anapat, il y a un automate pour l'immunohistochimie de malades de cancer. Nous faisons de notre mieux pour que les enfants soient servis au maximum. Les examens qui demandent les analyses immunohistochimiques, on prend des dispositions pour vraiment que ça soit
pris
en charge.
De son côté, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, Dr Jean-Robert Makoulou, salue l'engagement du gouvernement dans l'amélioration de la lutte contre les cancers au pays. Cette journée a été commémorée sous le thème « Démontrer l'impact des défis au changement ».
Actualité internationale.
Le président Donald Trump s'est exprimé hier lors de la première réunion du Conseil de paix à Washington. Dans son discours, le chef de l'État a salué ses membres comme des alliés clés et a réaffirmé son soutien pour certains dirigeants étrangers qui ont fait ou font toujours face à des élections contestées dans leur pays, à l'instar du président hongrois ou de la première ministre japonaise. Initialement créé par le président américain pour aider à la reconstruction du Gaza, où les tirs et les frappes restent quotidiens après plus de 4 mois de cessez-le-feu, ce Conseil de paix a dorénavant aussi pour mission de garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits.
L'invité.
Les contrôles de documents de transport et de véhicules se sont renforcés à Kinshasa sur plusieurs axes routiers. Plus de 3 semaines après leur lancement, les interventions des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont dressé un bilan à mi-parcours de cette opération. On les écoute au micro de Jean-Marc Matwaki.
Monsieur Bienvenu Kakule Kimbula, les chauffeurs sont parmi les personnes qui sont plus ou moins concernées par ces opérations. Vous êtes président de l'Association des chauffeurs du Congo. Quel bilan à votre niveau que vous pouvez dresser sur cette opération des contrôles des documents des véhicules dans la ville de Kinshasa plus de 3 semaines après?
Le bilan, nous allons répondre à des sens. Le bilan est positif, il est encore négatif.
Comment ça?
Pourquoi? Je vais dire le bilan est positif.
Positif sur base de quoi?
Parce que vous-même, en introduction, vous avez dit pour lutter contre les embouteillages. Bien entendu, il y a des heures où aujourd'hui, il y a quand même les embouteillages qui ne sont plus là. Mais vous allez constater qu'il y a aussi des points chauds, des moments où les embouteillages aussi reviennent tantôt. Mais dans la globalité, le bilan n'est pas du tout positif. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a rareté du transport sur terrain, la conséquence impacte sur le panier ménagère.
Et sur la population surtout.
La population. Or, quand déjà ça impacte sur la population, comprenez, les trajets, oui, vous allez parcourir cela avec fluidité, mais avec quel prix? Parce que l'État n'a pas de mainmise sur tous les engins de la ville de Kinshasa ou sur tous les chauffeurs de la ville de Kinshasa. Ça peut y arriver un sentiment conduit un chauffeur X, au lieu de respecter la grille tarifaire, mais il fait ce qui lui semble dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il se sent vedette sur terrain. Il a débloqué beaucoup d'argent du coup que l'État congolais a exigé face aux taxes. Et après, il s'est dit, bon, il faut qu'il récupère au plus vite. Alors, c'est de là que j'ai dit, le bilan est négatif.
Nous allons aussi donner la possibilité à Monsieur Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Monsieur Jonas, quel bilan peut-on dresser de l'opération des contrôles de documents des véhicules dans la ville de Kinshasa plus de 3 semaines après?
que nous pouvons bien dire, c'est l'État qui devait nous donner le bilan en termes de recettes mobilisées sur toutes ces opérations de contrôle dans les artères de Kinshasa. Parce que les contrôles, mais ils ont aussi le droit de nous dire combien ils ont perçu. Et ça pourrait servir à quoi? Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, la perturbation du transport dans la ville reste très visible, très visible. L'opération migratoire comme une opération pour lutter contre les embouteillages. On ne lutte pas contre les embouteillages par des taxes. Les embouteillages, on lutte par l'organisation des réseaux routiers de la ville de telle manière qu'il y ait les routes praticables. Le contrôle technique en soi, c'est vraiment quelque chose qui ne s'explique pas en partie. Parce qu'on ne peut que constater qu'il y a une telle ou telle autre panne, mais après, c'est quoi? Il rentre chez lui. Qu'est-ce qui nous rassure quand il est rentré chez lui et qu'il a dû réparer la panne qui a été constatée? Ça, on n'a pas la garantie. Donc, c'est une opération de prendre de l'argent, mais qui n'a pas de suivi. Cette opération, en réalité, 3000 personnes, la loi dit des agents qualifiés qui connaissent le problème de code de route. Là, nous sommes en train de violer le code de route, en train de faire croire à la population qu'on est en train de contrôler le permis. Mais celui qui peut contrôler le permis, c'est l'agent qualifié. C'est ça la loi.
Nous allons cette fois-ci nous tourner du côté de M. Valemanga, président honoraire de la Commission nationale de la prévention routière Saint-Père. Il est expert en transport multimodal des sécurités routières. Monsieur Valemanga, quel bilan à votre niveau dressez-vous sur l'opération des contrôles des documents des véhicules dans la ville de Kinshasa plus de 3 mois après?
Eh bien, le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des agents qui ont été ramassés comme cela, sans formation, qui sont largués sur la voie publique. La loi dit ceci, ne peut contrôler, par exemple, le permis de conduire que seulement un agent qualifié. L'agent qualifié, c'est un OPJ qui, d'abord, un, il connaît très bien le code de la route, et puis son applicabilité, et puis comment arriver à appréhender, par exemple, un usager de la route. Deuxièmement, pourquoi le bilan est mitigé? Mitigé, tout simplement parce que il y a eu beaucoup de bavures. Au début, même le gouverneur lui-même a attrapé certaines personnes qui ont mis la main dans le sac.
Il y en a qu'on a même limogé.
Donc, ça signifie que l'opération n'était pas très bien préparée. Et ça s'est fait à la va-vite.
Vous pouvez écouter l'intégralité du dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net, également sur toutes les plateformes digitales de la radio. Madame, Monsieur, nous vous remercions de l'attention accordée à ce journal préparé par Lévin Bouinga, mis en onde par André Mungu. Excellente journée à toutes et à tous.